quand il y a risque de rupture du lien familial avec une volonté d'un des deux parents d'éliminer l'autre parent de la vie des enfants, la médiation familiale n'est pas toujours indiquée, parfois même au contraire, dans la mesure où si dès le départ le conflit des parents vise à, je dirais, à abattre l'autre, y compris en le privant de ses enfants ou en montant les enfants contre lui, je ne pense pas que si on a des indicateurs clairs de cette dynamique-là, que la médiation familiale puisse être utile.
Un enfant, un bébé même, est prêt à donner sa vie s'il sent une fragilité chez l'adulte. Il faut savoir qu'il y a des enfants qui se laissent maltraiter. Alors c'est difficile quand on est maltraité de se rebeller, mais il y a aussi des moments où on pourrait éventuellement chercher de l'aide. Et l'enfant se laisse maltraiter parce qu'il sent que le parent a besoin de faire ça. Un besoin fou, bien évidemment. Hein. Mais donc l'enfant peut très bien dire « je veux vivre chez mon père » parce qu'il pense qu'il faut oui. protéger ce père. Ou « je veux vivre chez ma mère » parce que ma pauvre maman, elle est toute seule.
Ce pouvoir qu'on donne à l'enfant, déjà dans une société où on a tendance à mettre l'enfant à une place où il n'est pas, le phénomène de l'enfant roi, ici, une fois que les parents se séparent, quelque part, on ajoute à ce rôle d'enfant roi, je vais exagérer volontairement, on lui met la place de l'enfant juge, c'est-à-dire qu'on lui demande, même si on le rassure, même si on prend la précaution oratoire de lui dire « c'est pas toi qui va décider, c'est le juge, etc. », quelque part, l'enfant se rend compte que sa parole va avoir du poids, et donc du pouvoir. Et donc, certains enfants sont littéralement anxieux, angoissés et extrêmement mal à l'aise. Il y en a qui le font avec plaisir, mais ce sont alors parfois des enfants qui sont manipulés par un des deux parents, mais extrêmement mal à l'aise. Des enfants qui se taisent, des enfants qui donnent des explications embarrassées vis-à-vis du juge, parce qu'ils n'ont pas envie, la plupart des enfants n'ont pas envie d'être arbitres ou juges de leurs parents en tant que parents, c'est-à-dire des parents qui doivent les mener vers l'autonomie. Et là, on leur donne la responsabilité et l'autonomie de se positionner quelque part en tant que juge de leurs parents, ce qui me paraît complètement anti-éducatif. Donc l'aliénation parentale, c'est le fait pour un enfant dont les parents se séparent, d'en arriver à partir d'une situation où il y avait une relation normale, affective et éducative normale avec ce parent, d'arriver suite au conflit familial, au conflit parental, d'en arriver progressivement ou parfois rapidement à rejeter ce parent. Donc, quand on dit aliénation, ça veut dire rendre étranger. Il ne faut pas confondre avec aliénation mentale, ça n'a rien à voir. Donc, ça veut dire qu'un parent devient étranger et même ennemi. Quand un enfant décrit massivement, sans nuance, le parent éloigné comme le mauvais, qu'il est complètement diabolisé, que l'enfant ne parvient même pas à se souvenir d'un souvenir agréable dans le passé, que tout est négatif en bloc. Un autre critère, c'est quand l'enfant utilise des arguments de l'adulte, qui est emprunté par exemple aux parents proches, ou met en avant des faits anecdotiques, etc., etc. Mais simplement qu'on parte d'un constat, souvent à partir de la non-présentation d'enfants, qui sont souvent classés sans suite. Il y a des pères qui déposent 30 fois plainte pour non-présentation et ça finit dans un panier ou au parquet, mais le parquet arrive à classer sans suite. Donc, ce que je préconise, c'est que à partir du constat, je dis bien du constat, que l'enfant n'a plus vu son père ou sa mère depuis X temps, qui a un risque de perte du lien parental. Et donc je propose qu'au lieu de parler d'aliénation parentale, qu'on utilise ce terme-là, risque de perte du lien parental. Alors si l'enfant n'a plus vu son autre parent depuis X temps, il n'y a personne qui peut nier qu'il n'y a pas de risque de perte du lien parental.
L'enfant qui rejette le parent parce qu'il est manipulé par l'autre, il est dans une culpabilité au moins inconsciente terrible qui va lui peser dessus toute sa vie. Il est dans un conflit intérieur qui va en général ressortir à l'adolescence et ça fait souvent bien des dégâts. Quant à l'idée que le parent ne se rendrait pas compte de ce qu'il fait, moi vraiment j'ai envie de dire je demande à voir, parce que quand on ne présente pas un enfant répétitivement, la justice pourrait obliger à présenter. Enfin, je veux dire, c'est quand même, il y a quand même des possibilités. Quand il s'agit du corps de l'enfant, l'idée de danger, là, tout de suite, on se mobilise. Mais par exemple, un enfant qui ne voit plus un de ses parents, c'est pas vrai que la justice considère qu'il y a la même urgence, alors qu'il y a absolument la même urgence. Il y a la même urgence, parce que la destruction psychique, c'est aussi grave que la destruction physique. Un enfant élevé comme ça peut très bien se suicider à l'adolescence, et on dira qu'on ne sait pas pourquoi, mais si on reprend l'histoire, on sait pourquoi.
Ce qui était assez extraordinaire sur le plateau, si j'ai encore le temps de dire ça, c'est qu'on avait des enfants qui étaient venus expliquer comment ils avaient résisté à ces tentatives d'aliénation parentale, et ça c'était assez exceptionnel de voir qu'ils avaient réussi, je ne sais pas trop comment, eux seuls peuvent peut-être l'expliquer, comment ils avaient trouvé les ressources à leur âge. Ils étaient quand même petits, donc là actuellement ils ont 17 et 13 ans, mais ils étaient beaucoup plus petits, de finalement garder comme de conduite, j'aime mon papa et j'aime ma maman et je continuerai malgré tout ce que tout le monde autour de moi peut me dire à aimer mes deux parents. Et ça c'était vraiment quelque chose d'assez exceptionnel, je pense, que des enfants résistent à ce conflit-là.